Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 17 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie la crypto-monnaie, les blockchains et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de France. Ah bah ouais, du coup beaucoup moins exotique là tout de suite. Ah bah oui, mais c'est les fêtes de fin d'année tout ça, donc on passe un peu de temps avec la famille. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau mon collègue, mon co-animateur de ce podcast, j'ai nommé Ploume. Bonjour Ploume.
Salut.
Comment vas-tu?
Ah ben, comment cette période où tout bruine, où seules les publicités des magasins tentent de nous remonter le moral, à grands coups de promotion pour les cadeaux de Noël forcés qu'on est obligé d'offrir à des familles qu'on n'a plus vues depuis des mois, qu'on voit en fait chaque fois à Noël et pour qui on est obligé d'aller dans le magasin pour trouver un truc qui de toute façon ne servira à rien et qui finira à trôner sur une cheminée pendant quelques mois avant de finir aux oubliettes de l'histoire. Oui, je suis cynique par rapport à cette période de l'année, mais je pense que oui, c'est le manque de lumière peut-être.
C'est bien, je vois que tu as conservé intact la magie et l'esprit de Noël.
Complètement, complètement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai une nouvelle publiée, mais qui est très vraiment une dans la magie de Noël, je vous jure. Vous allez sur mon blog, sur ploume.net, et vous cherchez « J'emmerde Noël ». Et c'est une petite nouvelle qui m'a été inspiré par un ami qui est malheureusement décédé, et donc c'est aussi un petit peu en mémoire de lui, et c'est une nouvelle qui ça à la fois s'appelle Jean-Mère Noël, qui est critique mais qui reste magique, je vous le jure.
Magnifique. Donc le programme d'aujourd'hui, nous avons d'abord bien entendu l'édito de Ploume, puisqu'il est là, on va pas s'en priver. Et puis ensuite, on va répondre à deux questions d'auditeurs qui nous ont posé des questions sur le blog. Je vous rappelle au passage que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions par rapport au contenu de ce podcast qui est fait aussi pour vous et par vous, n'hésitez pas à poser vos questions sur en commentaire sur le blog sur proofofcast.com ou par Twitter, Facebook sur les pages et les comptes dédiés. Et puis bien entendu, si vous appréciez le podcast, on apprécie toujours autant les reviews, les petites étoiles, les commentaires, tout ça sur les plateformes de podcast. Et là donc cette semaine, on a eu deux questions auxquelles je vais essayer de répondre de la manière la plus didactique possible dans ce podcast. Et puis ensuite, on couvrira comme d'habitude les actualités. Il n'y a pas énormément de choses cette semaine, mais on va parler d'Ethereum et des quelques brèves par rapport à l'actualité d'Ethereum et notamment de Constantinople qui s'en vient. On va parler aussi de Consensus. On avait parlé déjà dans les derniers épisodes des rumeurs de potentiels licenciements qui pourraient s'en venir, et ça s'est confirmé avec des chiffres et avec des perspectives plus claires. Et puis on va parler aussi de Pixby, et ça je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, c'est un petit peu dans l'esprit de Nowhere. Alors on va commencer.
On ne parlera pas des gilets jaunes coins, je vous jure que ça existe, mais non, on n'en parlera pas.
On parlera pas non plus aussi des propositions de certains pour utiliser le sovereign de democracy.earth pour aider les gilets jaunes à se structurer. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir quand ça sera plus concret, mais effectivement il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau là
Tout à fait, tout à fait.
Et donc, je te laisse la parole, Ploume, pour ton édito que nous attendons avec impatience.
Eh bien, chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto. Ploume, mon frère Ploume, que vois-tu à l'horizon des cryptos? Oh, je ne vois que le Bitcoin qui crachoit et l'Ether qui crachoit aussi, et le Bitcoin... Bitcoin Cash qui croit choix un peu moins, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Et oui, nous pauvres hodlers, tels des favorites dans le harem d'un sultan byzantin, nous vivions les fesses dans le velours en nous voilant la face. Mais aujourd'hui, il est temps de faire face à la triste réalité. La plupart d'entre nous ont déserté le navire, même les bidlers sont repartis faire de la consultance SAP pour payer le crédit de la télévision écran géant acheté à coup de poing lors du dernier Black Friday, se faire traire pour payer les traites. Quelle ironie. Nous avons ça en commun, donc, avec les roues de vélo et les droits de la femme au Moyen-Orient. Il faut se dévoiler pour progresser. Seuls restent quelques fidèles de la première heure, lessivés, roués de coups, mais tenant fièrement leur menton altier comme un Klaus Kinski descendant l'Amazone en écoutant Caruso sur un vieux phonographe, scène mythique du sublimissime Fitzcarraldo. Arrivent aussi quelques noobs en retard de deux guerres mondiales qui ont vaguement entendu parler d'un crypto-bitreum et qui, découvrant l'effondrement des cours, s'écrient « mais c'est quoi ce beans ?» Remarquez l'éclectisme cinématographique de l'auteur, quand même, qui arrive à mélanger les références à Werner Herzog et aux visiteurs. C'est d'un mauvais goût tellement osé et assumé que ça en devient artistique. C'est un peu comme Audley, des Cicaves et du Ripple dans un fonds de pension. Mais bon... Notons que cela donne des idées, hein. Vous imaginez un instant Klaus Kinski en Aguirre colère des dieux, transporté au XXe siècle face à Valérie Le Mercier. Ah, le résultat pourrait être particulièrement inspirant, même si pas forcément enfant et demi, et avec une fin tendant certainement vers les coloris d'un Suspiria et d'une ambiance globale plus proche d'un Devils de Ken Russell qu'un Les Bronzés à la foire médiévale. Mais je m'égare, nous sommes en 2018 et seuls les vieux cons font encore référence à Ken Russell, Dario Argento ou même Werner von Herzog. Aujourd'hui, on ne parle que de torchons comme Super Megaman, Iron Batman et autres man à linge. Mais que voulez-vous, le monde marche désormais cul par-dessus tête, tout est retourné. Savez-vous que Palm vient même de sortir un nouveau téléphone? Mais qui n'en est pas vraiment un. Mais quand même, c'est le plus petit téléphone Android du monde. Sauf que ce n'est pas un téléphone. Non, en fait, pour vous raconter toute l'histoire, Palm a été vendu à une entreprise chinoise appelée TCL il y a de ça plusieurs années. Alors TCL, ils s'en foutent. En fait, comme tous les Chinois, ils ont trouvé un truc américain pas cher, ils l'ont acheté comme souvenir pour pouvoir dire à leurs petits-enfants qu'ils ont connu les États d'Amérique avant qu'ils s'écroulent. Et comme tout acheteur de souvenirs, ils ne savent pas quoi foutre de ces attrape-poussières. Enfin, les souvenirs, en fait, c'est un des trucs avec les cadeaux de Noël, c'est un des trucs les plus retors quand on y pense. On paye pour un truc moche, dégueulasse, de mauvaise qualité, mais surtout, on signe avec son sang un contrat pour être lié à cet objet pour l'éternité. Car à chaque fois que vous voudrez vous en débarrasser, une petite voix intérieure, ou extérieure si vous vivez en couple, vous dira « Tu ne vas quand même pas jeter notre seul souvenir, hormis les 1173 photos, qui nous restent de nos vacances jet-air à Playa del Carmen, n'as-tu point de cœur ?» Et c'est pareil avec les cadeaux de Noël de la belle-mère, de la grand-mère et de la petite cousine. Donc, penaud, on reposera l'immonde attrape-poussière d'artisanat local sur son étagère en soupirant, vaincu une fois de plus par l'effroyable démon. Mais je m'égare. Je vous parlais de Palm, une société qui produisait des téléphones portables à une époque pas si lointaine où les Visiteurs 3 s'affichaient sur les cinémas. Non, jeune con, Netflix n'existait pas encore. Eh bien, récemment, deux designers ont eu l'idée d'un phone not a phone, une espèce de mini-smartphone, mais qui nécessite d'avoir un plus gros smartphone. Alors, déjà, le concept est assez incroyable d'absurdité. Alors, c'est vrai que ce serait cool d'avoir un super petit smartphone, mais si on doit quand même avoir le grand, et de plus, ça fonctionne qu'avec Verizon aux États-Unis, ce qui réduit significativement l'intérêt. Et nos deux designers, sans doute en lice pour le Darwin Award du produit le plus con de la décennie, ont décidé, comme Maurice, de pousser le bouchon un peu plus loin. Observez avec quelle agilité je redescends de ma tour d'ivoire pour faire des références de mon temps. Hein, je passe de Claude Skinski au public. Quoi ? C'est déjà has-been la référence à Maurice et les Visiteurs 3 ? Et la marmotte papy à livre, c'est quand même... Ah, ça fait déjà 20 ans. Mais alors... Mais quelle culture apportons-nous à nos enfants qui sont biberonnés aux Instagrammeurs s'ils ne peuvent pas être élevés avec la saine et confortante débilité d'un club Dorothée, hein? Parce que, entre nous, si un jour vous trouvez que c'était mieux avant, que les enfants ne regardent que des bêtises sur Internet ou que Peppa Pig va en faire des débiles mentaux... Ça en donne l'impression, j'avoue. Eh bien, je vous invite à revoir en entier un épisode des Chevaliers du Zodiaque, de Juliette Zotem ou de Pas de pitié pour les croissants. Vous vous rendrez compte que, wow, comme un ancien client de Mongox qui retrouve un vieux disque dur sur lequel était en réalité son wallet Bitcoin, On l'a échappé belle. Mais je m'égare. Nos deux designers du téléphone, donc, qui font un téléphone qui n'en est pas vraiment un, ont contacté les Chinois de TCL pour savoir si, ben, moyennement paiement, ils pouvaient acheter une licence pour appeler leur merde, leur espèce de non-téléphone pour l'appeler un Palm. Et les Chinois ont été complètement abasourdis que des Américains les appellent pour leur proposer des sous sans qu'ils doivent rien faire. Ils ont réfléchi longuement, genre une demi-seconde, avant d'accepter avec un petit hochement de tête signifiant en chinois « Hmm, mais c'est bien parce que c'est vous et ce sera cher. » Bref, on est dans un monde où les cryptos se cassent la figure, où apparaissent des non-téléphones appelés Palm, où les hodlers font la fête car « Ouais, aujourd'hui le Bitcoin est remonté à près de 4 000 $ !» Alors qu'il y a un mois, l'idée d'un Bitcoin à 6 000 $ provoquait des vagues de suicides. Bref, n'allez pas me dire que tout cela est rationnel, c'est horrible, il y a plus rien qui tient. Alors moi, comme Fitzcarraldo, j'abandonne toute idée de rationalité et je m'en vais voguer sur le fleuve en écoutant Caruso. Ah, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur dans la vie.
Eh ben, ça c'est du cru. J'ai adoré toutes ces références, tout cet humour magnifique, splendide. Merci Plume pour cet édito édifiant, comme d'habitude. Alors, nous allons maintenant donc passer au cours. Je suis sûr que ça va. Je suis en train de me dire que je suis sûr que ça va susciter plein de remarques et de questions. J'adore. Donc, passons donc au courrier des auditeurs. Cette semaine, on a eu deux questions, toutes les deux posées sur le blog. En commentaire de l'épisode 15, on a eu un commentaire de Latrouille, en tout cas c'est son pseudo, qui nous dit « Bonjour, est-ce qu'il serait possible de faire un petit focus sur les cryptos anonymes ? Je pense à Monero, Zcash et ses petites sœurs Zclassic et Zcash Horizon, Pivix, Verge, voire d'autres plus petites type Spectre, Aeon ou For. » Qu'est-ce qu'on entend réellement par anonyme ? Quels sont les avantages et inconvénients des différents protocoles de ces cryptos ? Merci d'avance. Alors, d'abord, on va parler de toutes ces cryptos. On va parler du concept en général et de quelques exemples. Et l'idée, c'est de vous donner les outils et les principes de base pour vous permettre à vous d'évaluer ensuite d'autres projets qui, effectivement, se prétendent défendre votre vie privée et votre anonymité en termes de crypto-monnaie. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par crypto-monnaie anonyme ? Je pense qu'il faut déjà positionner ça par rapport au Bitcoin, la crypto-monnaie de base, on va dire, la première, et voir quels sont les problèmes que Bitcoin pose en termes d'anonymité, justement.
On dit anonymat, juste, je me permets. C'est parce que s'il y a des gens de l'Académie française qui nous écoutent, ils sont en train de bondir dans leur siège, et comme à leur âge, c'est pas recommandé, on va continuer avec anonymat.
Et ben moi, je dis anonymité, et puis c'est tout. Voilà, hein, tant qu'on en a inventé des trucs, non, d'accord.
Non, mais okay. J'ai déjà deux infars au fond de la salle. Donc
d'accord. Donc désolé pour les infos au fond de la salle. S'il y a des personnes qui maîtrisent le massage cardiaque, allez-y. Dans le même temps, je vais me corriger. Donc effectivement, en termes d'anonymat, quels sont les problèmes posés par Bitcoin ? D'abord, il faut bien prendre conscience que Bitcoin n'a jamais prétendu être une monnaie anonyme, mais est une monnaie pseudonyme. La différence entre les deux étant que on n'a pas d'informations identifiantes à proprement parler qui circulent sur la blockchain Bitcoin. Votre nom, votre adresse, rien d'identifiant a priori ne circule dans les données de la blockchain. Par contre, chaque adresse est liée à un solde facilement identifiable et donc ce qu'on appelle linkable. Alors, j'ai pas trouvé vraiment de traduction française littérale, liable peut-être, mais bon, c'est pas très joli. Donc le premier problème, c'est ça, c'est que il est facilement possible de connaître le solde en crypto-monnaie de chaque adresse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à un moment donné où vous achetez, vous vendez, vous utilisez vos bitcoins sur une plateforme qui enregistre votre identité, type par exemple les places de marché à la Coinbase qui vous demandent vos infos réelles pour pouvoir les utiliser, à ce moment-là, il est facilement possible de lier votre adresse Bitcoin à votre identité réelle et donc au solde qui se trouve derrière votre adresse Bitcoin aussi. Donc ça, c'est le premier élément. À la marge, il est toujours possible d'identifier les utilisateurs. Évidemment, si vous utilisez jamais ces plateformes, eh ben, il faudrait que quelqu'un trouve fasse le lien entre les deux d'une autre manière. Mais en général, c'est par là que ça se passe.
En fait, on peut même simplifier en disant que par définition de la blockchain, toutes les transactions sont publiques. Donc, il n'y a pas de nom, donc on ne sait pas à quoi correspondent les transactions. Mais comme on le voit aujourd'hui avec les scandales, par exemple, avec les positions qui sont envoyées, on dit Google garde toutes les positions et revend les positions mais des smartphones, mais ne donne pas les noms. On sait désanonymiser des données avec assez peu d'informations. Pour les positions, c'est super facile, évidemment. Mais avec les transactions, c'est aussi possible parce qu'en fonction des volumes des transactions, on voit que l'argent s'amasse à un endroit, on voit qu'il a été dépensé à telle date, on peut potentiellement, si on a d'autres infos, les lier à des achats. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de vous payer, vous connaissez une des transactions de cette personne, en explorant la blockchain, vous pouvez remonter le filon pour savoir comment cette personne elle-même a gagné l'argent qui a servi à vous payer. Alors, vous saurez pas tout, mais il y a moyen de triturer les données pour finalement, c'est pas facile et ça peut même être très difficile, mais il y a moyen de retrouver des tas d'infos, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas anonyme, c'est pseudonyme.
Voilà. Et d'ailleurs, ça m'offre une transition vers l'autre problème, effectivement, qui est la traçabilité. C'est-à-dire que non seulement il est possible de retrouver, de connaître de manière non ambiguë le solde de chaque adresse, mais en plus, comme effectivement toutes les transactions sont transparentes, que ce soit leur montant, leurs émetteurs ou leurs destinataires, on peut analyser les données de la blockchain pour remonter l'historique de chaque transaction et donc voir par quelles adresses sont passés les fonds, en fait. Donc ça, c'est ces deux éléments à la fois, linkability et traceability, comme on dit en anglais, sont les deux éléments clés, on va dire, pour qui font la vraie défense de la vie privée ou pas d'une crypto-monnaie. Et effectivement, Bitcoin a ces deux inconvénients-là, que toutes les données sont transparentes et que en plus les soldes sont visibles sur les comptes. En gros, c'est ça le problème. Et donc, à cause de ça, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi je suis pas un malhonnête, j'ai rien à cacher. Ça, c'est le débat classique et le danger, on va dire, de la vie privée. C'est pas parce que vous avez, enfin, si vous voulez cacher des choses, c'est pas forcément parce que vous avez des choses malhonnêtes à cacher, c'est juste parce que vous voulez défendre votre liberté d'action. C'est pas seulement le gouvernement qui veut regarder vos transactions, c'est aussi des sociétés privées qui veulent pouvoir l'utiliser, des compagnies d'assurance, etc. Et donc, protéger votre vie privée, c'est aussi protéger votre liberté.
Alors, il faut quand même préciser que il y a une raison pour laquelle Bitcoin est comme ça, c'est que c'est parce que Bitcoin est le premier et donc il explorait le design le plus simple possible. Et à l'époque, on imaginait même que peut-être que ce pseudonymat pouvait être suffisant, même si c'était pas garanti. Et c'est avec l'essor du Bitcoin que les outils d'analyse de la blockchain se sont vraiment développés pour permettre des enquêtes approfondies qui demandent beaucoup beaucoup de ressources, mais c'est possible. Et donc ça, c'est voilà, c'est pour ça que le Bitcoin n'est pas aussi anonyme que certains l'aimeraient. C'est simplement parce que c'est le premier qui a mis en place l'infrastructure et que, évidemment, avant de faire tout parfait, d'abord, de mettre les Velux, tu mets les fondations, quoi.
Voilà, et aussi parce que je pense que, clairement, ils n'avaient pas forcément anticipé l'essor des places de marché d'échange entre monnaie fiat et crypto-monnaie, qui, du fait qu'elles opèrent dans un contexte régulatoires liés aux monnaies fiat doivent aussi faire du KYC et de l'AML, etc. Et donc identifier les gens. Et ça, encore une fois, ces plateformes d'échange ne font absolument pas partie de la blockchain à proprement parler. C'est plutôt un phénomène à la marge. Mais n'empêche que ça met en danger effectivement l'anonymité, enfin l'anonymat et le pseudonymat du coup sur les crypto-monnaies.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote historique, avant Mongox, qui est arrivé, si je me souviens bien, en 2013 ou 2012, eh bien, tout simplement, la seule manière d'avoir des bitcoins, c'était de trouver quelqu'un qui voulait bien vous en donner en échange d'un service, comme ça pour le fun, en échange d'un travail ou en échange d'argent fiat, mais envoyé directement par PayPal ou par compte en banque. Et on parlait à ce moment-là de over the counter. Donc vraiment, on faisait des transactions directes. Il y avait des sites web même qui permettaient juste d'enregistrer. J'ai envoyé m'envoyer des bitcoins et je fais un virement bancaire en échange. Mais il n'y avait rien de structure, il n'y avait pas vraiment de taux et de plateforme d'échange à l'époque.
Voilà. Ou alors il fallait miner, évidemment. C'était toujours
il fallait miner, tout à fait. Ça, c'était encore l'alternative. Si on avait des cartes graphiques qui traînaient, c'était l'alternative la plus rentable.
Voilà. Et alors, un autre élément qui est important dans cette vie privée, et après je passerai aux exemples, c'est que une des caractéristiques, une des propriétés d'une monnaie à part entière, c'est ce qu'on appelle la fongibilité, c'est-à-dire que chaque élément, chaque unité de cette monnaie doit être strictement équivalente à toute autre unité. En théorie, un billet de dollar est strictement équivalent à un autre billet de dollar et il n'y a aucune spécificité à chaque unité. Et c'est ça qu'on cherche à défendre dans le cas d'une monnaie. Et évidemment, si on peut sourcer l'origine d'une monnaie et dire tiens, celle-là, allez, ces trois bitcoins là, ils viennent d'un compte qui a été identifié comme appartenant à un escroc notoire ou à un condamné ou etc. Évidemment, les bitcoins venant de ces adresses là auront au moins théoriquement moins de valeur que les autres. Et donc c'est la fongibilité qui est en question aussi quand on parle d'anonymat. Il y a que quand une monnaie est vraiment anonyme complètement, qu'elle défend vraiment votre vie privée de bout en bout, que on peut avoir une monnaie qui est vraiment fongible, ce qui est effectivement une caractéristique essentielle d'une monnaie.
Et c'est pour ça qu'on a vu très tôt arriver, même avant les échanges, des services de mélangeurs, de mix de coins, où en gros, on pouvait envoyer des coins et ils faisaient des milliers de transactions de portefeuille à portefeuille avant de vous renvoyer vos bitcoins, mais qui n'étaient peut-être pas ceux que vous avez envoyés, qui étaient peut-être ceux que quelqu'un d'autre avait envoyés sur la plateforme. C'était une manière d'essayer de brouiller les traces, entre guillemets, qui n'étaient pas parfaites, voilà, mais qui permettaient de garantir un peu plus d'anonymat.
Alors, je vais y revenir justement quand on va parler des exemples et des différentes techniques utilisées par ces différentes crypto-monnaies. Mais donc, comme on l'a très souvent évoqué dans les épisodes précédents, quand on essaye de mettre en avant une fonctionnalité dans une crypto-monnaie, il faut toujours prendre en compte l'effet Mikado, c'est-à-dire que si vous bougez un truc, vous risquez de faire des compromis dans d'autres secteurs. Et le triptyque, on va dire, qui est critique à maintenir dans le cas des crypto-monnaies, c'est que tout en défendant la vie privée et en protégeant l'anonymat des utilisateurs, il faut conserver, comme je le disais, la fongibilité, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les unités aient la même valeur, et en même temps ne pas mettre en danger la décentralisation, c'est-à-dire qu'à aucun moment, pour maintenir cette fongibilité et cette vie privée, on ne doit introduire une entité, un groupe ou une institution qui contrôle d'une manière ou d'une autre l'évolution et la production de la monnaie. Donc ça, c'est les contraintes qu'on doit conserver quand même, parce que évidemment certaines propriétés sont faciles à maintenir si on fait des gros compromis dans d'autres propriétés. Alors, passons maintenant aux exemples, et là encore une fois, je vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais prendre plusieurs exemples, on va dire, que j'ai classé un petit peu du moins respectueux de la vie privée au plus avantageux en la matière, et puis on va voir quelles sont les mesures qui sont utilisées dans chaque cas. Commençons avec le Dash. Alors le Dash est une crypto-monnaie je crois qui est dérivée du Dogecoin, si mes souvenirs sont bons, mais qui ne met en place aucune mesure cryptographique particulière pour protéger la vie privée. La seule chose qu'elle fait en plus de Bitcoin, c'est de systématiser ce que Plume évoquait justement à l'instant, c'est-à-dire le mélange de transactions, ce qu'on appelle le coin join, l'idée de obfusquer les transactions en les mélangeant. Il faut savoir qu'une transaction Bitcoin, même par défaut, vous pouvez avoir plusieurs sources et plusieurs destinations. C'est pas seulement de Alice vers Bob, ça peut être de Alice, Bob et Charlie vers tous leurs copains. Donc il est possible en combinant plusieurs transactions d'obfusquer les sources et les destinations, simplement en mélangeant un petit peu tout ça, on sait plus qu'est-ce qui vient d'où. La difficulté avec ça, évidemment, c'est que pour pouvoir envoyer une transaction obfusqué, vous devez attendre que d'autres aient aussi besoin d'envoyer des transactions. Et donc les transactions doivent être combinées et donc elles prennent plus de temps. Ce qui fait que généralement, ce système-là ne peut pas être systématique. Sur Dash, par exemple, c'est une mesure qui est complètement optionnelle. Toutes les transactions, du coup, ne sont pas privées. Toutes ne bénéficient pas de ce système de mix, de ce système de mélange. Et en plus, la particularité de Dash, c'est que pour accélérer, pour effectuer ce mélange, Orange, on utilise ce qu'ils appellent des masternodes, qui, d'une certaine manière, ont plus de pouvoir que des nœuds normaux. Donc, on introduit, encore une fois, de la centralisation. Donc, on fait un compromis sur la décentralisation du réseau. Et en plus, on n'a aucune garantie que ces masternodes ne vont pas, eux, garder une trace des sources et des destinations des transactions qui passent par eux. Donc ça rajoute aussi certains éléments d'inquiétude. Il n'y a aucune garantie par rapport à ça, et encore une fois c'est un compromis qu'on fait au nom de garder une certaine efficacité, une certaine vitesse de transaction, tout en mélangeant les transactions entre elles pour en protéger l'aspect privé. Donc tout ça fait que on essaye d'introduire un certain niveau de protection de la vie privée, mais au prix de d'une baisse de la décentralisation. Et ça, bah voilà, c'est un compromis dont il faut être conscient quand on utilise ce genre de mécanisme. Et du coup, comme dans tous les systèmes dans lesquels la vie privée, enfin les mécanismes liés à la vie privée sont optionnels, on peut pas vraiment dire que la monnaie soit fongible, puisqu'il est possible pour quelqu'un de dire à partir du moment où cette transaction elle est mixée avec d'autres, je vais décider de l'ignorer parce que potentiellement il y a des choses là-dedans, il y a des sources de crypto-monnaies, de Dash qui ne me plaisent pas, et donc d'une certaine manière, théoriquement, toutes les unités de Dash n'ont pas exactement la même valeur. Donc ça, c'est la monnaie Dash. Alors, je précise au passage que tous les exemples que je vous prends là, c'est issu d'une série d'articles dont je vous ai mis les liens dans le blog. Donc, je vous invite à aller les voir pour vous faire votre propre idée et avoir d'autres liens plus en détail. Je vais passer sur Verge, qui n'apporte pas énormément de choses et qui, en plus, a souffert de plusieurs attaques, 51% ces derniers mois, qui ont sérieusement mis en doute la viabilité du machin. Donc, le seul truc que Verge prétend ajouter par rapport en termes de vie privée par rapport à Bitcoin, c'est de décorréler les transactions des adresses IP qui sont utilisées pour les émettre. Donc là, l'idée, c'est juste que on puisse pas vous localiser en tant qu'émetteur d'une transaction via votre adresse IP. Et ils utilisent pour ça le réseau Tor, qui est déjà utilisé pour offusquer le trafic web. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Verge. Maintenant, je vais revenir plus en détail sur une autre crypto-monnaie dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents du Proofcast, c'est le Zcash. Alors le Zcash, pour le coup, utilise des mécanismes cryptographiques bien spécifiques pour protéger les données des transactions, et pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle les ZK-SNARKs, qui sont un petit peu le nom barbare de la preuve sans connaissance, c'est-à-dire la possibilité de prouver mathématiquement que quelque chose a eu lieu sans révéler la nature de ce quelque chose. Et donc ça, c'est un mécanisme qui existe sur Zcash, dont on n'a pas encore démontré une quelconque faiblesse mathématique. Par contre, le gros souci, c'est que ce mécanisme est assez lourd, nécessite jusqu'à 1 à 2 minutes de calcul, même sur une machine assez puissante, et donc il est optionnel. Donc, comme on l'a dit jusqu'à présent, à partir du moment où c'est optionnel, la fongibilité n'est pas garantie, puisqu'il est possible pour un acteur du réseau de dire je décide de ne pas considérer le Zcash produit à partir de transactions protégées avec la même valeur que d'autres Zcash. Ça, c'est une réalité liée encore une fois au côté optionnel de ce mécanisme. Et dans le cas de Zcash, l'utilisation de transactions qu'on appelle shielded, c'est-à-dire protégées, verrouillées, ou en tout cas voilà, dont les données sont encryptées par des ZK-SNARKs, nécessite l'utilisation d'adresses spécifiques qu'on appelle aussi des adresses shielded. Et aujourd'hui, on estime que seulement 5% des transactions Zcash sont protégées de la sorte. Donc, d'une certaine manière, quand vous utilisez une adresse shielded pour produire des transactions shielded, vous êtes déjà suspect puisque elles sont minoritaires, on va dire, sur le réseau.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est une des critiques générales par rapport à toutes les options de vie privée qui sont optionnelles, comme par exemple sur Telegram, où Telegram, en fait, l'encryption est très basique, sauf si vous activez un canal sécurisé. C'est que du coup, ces options peuvent faire pire que mieux parce qu'ils peuvent attirer l'attention de quelqu'un qui est en train de surveiller, en fait. Ça permet de dire, tiens, il se passe quelque chose si quelqu'un n'a jamais utilisé cette option et soudainement, pour une communication, paf, on sait dire à telle heure, à telle minute, cette personne a utilisé l'option. Ah, il se passe peut-être quelque chose de louche. C'est pour ça que tout ce qui est vie privée ne doit pas être optionnel, mais doit faire partie vraiment, doit être là par défaut pour tous les utilisateurs. Et même pour dire est-ce que tu joyeux Noël, eh ben ça doit être crypté, ça doit être chiffré, pardon, ça doit il faut avoir une protection maximale parce que sinon on vit dans un monde à deux vitesses où là vraiment comme l'a dit Seb, on se fait super remarquer, quoi.
Voilà. Et alors, pour conjurer un peu le tout et allez insister sur un élément que j'ai découvert en faisant quelques recherches pour cet épisode. Si on parle de décentralisation, il y a d'autres aspects à regarder. Là, dans le cas de Zcash, il n'y a pas de masternode comme dans le cas de Dash, par exemple. Mais par contre, c'est important de savoir que là où les autres projets cités jusqu'à présent étaient plutôt des projets open source, gérés et développés par une communauté ouverte, etc. Le cas de Zcash est assez particulier puisque eux, tout le développement logiciel et l'idée est managée, gérée par une société qui s'appelle Zero Coin Electric Coin Company, qui vraiment chapeaute vraiment tout le développement et à ce titre prend 20% des mining rewards sur les 4 premières années. Donc on est encore dans ces 4 premières années et pour l'instant chaque bloc qui est produit, il y a 50 Zcash coins qui sont produites, qui sont minées, et 20% reviennent, donc 10 Zcash reviennent à la société qui gère le développement. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, et on estime qu'à terme, même une fois que les 4 premières années seront passées, puisque le stock de Zcash est limité à 21 millions d'unités comme celui de Bitcoin, il pourrait quand même détenir jusqu'à 10% du stock disponible, ce qui est quand même pas négligeable. Et en plus de ça, pour vraiment achever un petit peu l'état des lieux en termes de décentralisation, le développement de Zcash, donc la société qui se trouve derrière, elle est sponsorisée par des entités comme la DARPA, donc l'agence de recherche de l'armée américaine, l'Air Force, mais aussi des agences israéliennes et même le ministre israélien de la science et de la technologie. Donc c'est des entités gouvernementales qui peuvent avoir leurs propres intérêts qui vont pas forcément dans le sens de ceux de la communauté.
Waouh, mais alors là maintenant je t'entends comme t'as tout descendu, maintenant j'attends Monero avec impatience parce que je me demande ce que tu vas dire sur Monero.
Alors, encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que ces éléments que je vous cite, c'est des choses que j'ai sorties des recherches que j'ai faites juste avant. Si vous avez d'autres infos, et même toi, Siploum, tu as d'autres infos pour compléter ce que je dis, n'hésitez pas, je ne prétends pas avoir tout compris. Maintenant, pour ce qui est de Monero, effectivement, c'est le dernier exemple sur lequel je voulais insister. D'abord, c'est important de comprendre qu'il y a un certain nombre de mesures cryptographiques qui existent et qui sont toutes activés par défaut. Donc contrairement à tous les exemples qu'on a cités jusqu'à maintenant où la vie privée était optionnelle, ici elle est par défaut, donc toutes les transactions sont protégées de la même manière. Les mécanismes qui sont mis en place, les trois principaux on va dire, c'est d'abord ce qu'on appelle les adresses furtives, les stealth addresses. C'est des adresses qui sont uniques et qui sont générées pour chaque transaction et qui peuvent pas être reliées entre elles. Autrement dit, sur Monero, a priori, il est pas possible de connaître le solde exact d'une adresse particulière, puisqu'il y a plein de de sous-adresses, on va dire, et de monnaie qui est constamment en circulation et qu'il est difficile de positionner sur un compte bien particulier. En plus de ça, ils utilisent ce qu'on appelle des signatures en anneaux, des ring signatures, qui permettent aussi d'empêcher à l'émetteur d'une transaction de vérifier ce qu'il advient des coins qu'il a envoyés à un compte. Donc c'est déjà impossible pour un observateur extérieur, grâce aux adresses furtives, de connaître le solde d'un compte, mais on pourrait se dire, oui, mais l'émetteur, lui, il sait vers quelles adresses sont envoyés les fonds, et donc il pourrait recomposer cette info. Et bien grâce aux signatures en anneaux, grâce aux ring signatures, c'est rendu impossible. encore une fois, je suis pas rentré dans le détail technique de comment ça fonctionne. Je m'arrête ici aux propriétés des différents mécanismes. Et alors, il y a quelque chose qui a été introduit depuis janvier 2017, qui s'appelle les transactions confidentielles en anneau, donc les Ring Confidential Transactions, qui sont une version améliorée des Ring Signatures et qui permettent de chiffrer aussi le montant des transactions, tout en permettant quand même la vérification de celle-ci. Donc là, c'est vraiment un truc où à tous les étages, à tous les niveaux, on protège les données à la fois des émetteurs, des destinataires et du montant de chaque transaction. En plus de ça, ils sont en train de travailler sur un nouveau client qui s'appelle Covery, qui n'est pas encore disponible, mais qui à terme leur permettra aussi de décorréler les transactions des adresses IP, comme ce que fait Verge déjà. Mais ça, là pour le coup, sans utiliser Tor, mais en utilisant leur propre implémentation de ce qu'on appelle de l'I2P, c'est-à-dire de, je me souviens plus du nom du sigle, enfin de la signification du sigle, mais je vous laisserai la retrouver. Donc là ici, on est sur une monnaie a priori où la fongibilité elle est totale, puisque la vie privée est activée par défaut sur toutes les transactions. Et en plus, en termes de décentralisation, tout le développement de Monero est réalisé par une communauté open source. Il n'y a pas de société derrière, il n'y a pas de financement bizarre. Le financement se fait uniquement par des dons. Donc là, a priori, la décentralisation, la fongibilité, la vie privée, tout est là. C'est probablement ce qui explique en fait l'utilisation aussi répandue, on va dire, de Monero comme monnaie. Je crois que en termes de capitalisation, de valorisation, c'est la plus grosse crypto-monnaie en termes de crypto-monnaie qui protège la vie privée.
Et c'est aussi en fait la plus populaire chez les web miners, donc les gens qui mettent des petits scripts dans les pages web pour miner sur votre ordinateur quand vous visitez une page web ou votre téléphone, parce que justement, donc c'est pas très légal. C'est dans bien des jeux de juridiction, c'est considéré comme illégal parce qu'on va utiliser votre ordinateur, vos ressources électriques. Vous allez voir que votre ordinateur va commencer à bouffer de l'énergie, à ramer. Simplement, il est en train de miner du Monero, et parce qu'il y a des petits clients JavaScript de minage de Monero, et le minage de Monero est tel que en fait il permet facilement des petits rewards, et donc voilà. Monero est très populaire là-dedans, ça lui donne aussi une mauvaise image de marque, mais effectivement il a plein de propriétés très sympas aussi. Et je rajouterais pour terminer que on a tous cité ça, mais que chez les Bitcoin maximalistes, il y a aussi la théorie de dire mais toutes ces fonctionnalités, on peut, si on voulait vraiment, on peut les rajouter dans Bitcoin petit à petit. Et ça, c'est pas impossible. Il y a plusieurs pour chacune des propriétés. Il y a peut-être pas pour toutes, mais j'ai déjà entendu pas mal de projets pour améliorer la vie privée de Bitcoin. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte que potentiellement, on n'est pas obligé de tout réinventer à zéro, mais que peut-être Bitcoin va lui-même s'améliorer sur certaines de ses propriétés. Mais le peut-être est vraiment de rigueur.
C'est un gros peut-être, effectivement. Alors, pour info, hein, encore une fois, j'ai cité quelques exemples ici, mais il y en a d'autres. Il y a des coins comme Bitcoin, il y a Bitcoin Private, il y a Komodo, il y a PVX, il y a Zcoin, il y a Navcoin, il y en a d'autres. Je vous ai mis des liens vers des articles qui les listent et qui les résument un petit peu toutes. Et j'espère vous avoir donné quelques pointeurs vers des outils qui vous permettent d'évaluer les différents compromis qui sont faits. J'ai même pas parlé des plateformes qui commencent à apparaître pour protéger non seulement, enfin pas seulement les transactions financières, mais aussi les smart contracts, puisque là on a parlé que de crypto-monnaies purement financières. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle Enigma, que j'ai découvert à DEFCON 4 cette année, et qui permet effectivement d'avoir des smart contracts qui protègent aussi la vie privée. Et donc voilà, la simple élément sur lequel je voulais insister, c'était que c'était vraiment important de toujours mesurer les compromis qui sont faits pour obtenir certains bénéfices, notamment en termes de vie privée, et qu'il y avait une grosse différence entre pseudonymat et anonymat. Voilà, et on va aller très vite maintenant à la deuxième question qui nous était posée par Plumfan. C'est très drôle parce qu'il donne une adresse email jetable en plus pour
utiliser. Je jure que c'est pas moi. Et Et je doute que ma femme écoute le podcast.
Comme si tu n'avais qu'une seule fan. Donc...
J'ai dit ma femme, ma femme.
Oui, non, mais
et
comme...
Et je jure que j'ai qu'une seule femme. Ça, je jure. Oui,
mais c'est certainement pas ta seule fan. Avec un... Voilà. Donc, Plumefan nous dit « Bonjour, une question très ouverte pour finir cette année d'excellent podcast. Merci. Quels sont, selon vous, les développements ou études actuelles les plus prometteurs dans le domaine de la blockchain et ou des crypto-monnaies en vrac ?» Network, Sharding Casper, ce qui concerne la scalabilité, Sapling, Mimblewimble, en ce qui concerne l'anonymat des transactions, la technologie Tangle, qui pour le moment ne fait qu'inventer des problèmes, on est d'accord, pour reprendre les mots de Plume, mais qui a une vision complètement différente de la classique blockchain et donc peut devenir prometteur. Ceci est bien entendu une liste non exhaustive, si vous voyez d'autres applications protocoles, allez-y, parlez-nous-en. Alors,
réponse, oui.
C'est ça. En tout cas, c'est pas le consensus autour de ça, c'est que y a du boulot et que les gens sont au boulot maintenant, vu qu'on a passé un petit peu la vague spéculative, hein, on en a déjà parlé. Alors éliminons tout de suite la question des tangles. Pour rappel, les tangles, c'est ce que cette technologie
IoTag globalement.
Oui, pour l'instant, effectivement, la technologie, l'implémentation la plus avancée, c'est probablement IOTA, et c'est pas beaucoup dire puisqu'ils sont pas très avancés. Mais l'année dernière, on a aussi beaucoup entendu parler de Hashgraph, qui se présentait déjà dans la presse comme le blockchain killer. Et puis on attend toujours. Hein, pour l'instant, Hashgraph, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé un seul article après mars 2017.
Mais Hashgraph, c'était du pur buzz marketing parce qu'il y a jamais rien eu, mais rien de, c'est rien, nada, à part du marketing, vraiment. Ils n'ont même pas expliqué comment ils faisaient quoi que ce soit, il n'y a pas eu une seule publi scientifique. Hashgraph, c'était vraiment le sommet de on surfe sur le buzz, on va faire blockchain 2.0 et toute la presse a repris et on ne sait même pas s'ils avaient vraiment une idée derrière la tête. Tandis que IOTA, il faut leur reconnaître qu'ils essayent de faire des choses. Ils le font mal, ils ont des mauvaises idées, ils ont des mauvaises implants, ils ont tout et à côté, mais ils essayent. C'est quand même, on a déjà beaucoup critiqué IOTA. Et donc, pour répondre à la question, peut-être que Hashgraph, le problème de du Tangle, c'est que ça semble intéressant, mais Tangle, c'est le nom vraiment du créateur, ce qu'a donné le créateur d'IOTA, cette idée qu'au lieu d'avoir une blockchain avec des blocs qui se suivent, on a en fait une sorte d'entrelac de nœuds qui vont l'un vers l'autre. Si je me souviens bien, mathématiquement, ça n'a pas du tout été prouvé comme pouvant converger, contrairement à une blockchain, parce qu'une blockchain, c'est trivial, c'est un bloc après l'autre. Et donc, mathématiquement, le fait que le Hashgraph soit même utilisable, c'est très, 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 très loin d'être sûr. Et l'approche d'IOTA, ça allait dire, on va essayer et on va voir. Et pour le moment, ça marche pas. Donc, on utilise un centralisateur qui va forcer une convergence de notre Tangle pour avoir des résultats. Mais le jour où on arrivera à le faire sans centralisateur, promis, on le fera sans centralisateur. Donc, dit comme ça explique bien où est le problème. Donc, moi, honnêtement, j'attends vraiment, je fais mon Saint-Thomas là-dessus. J'attends vraiment de voir une preuve mathématique ou une implémentation qui fonctionne d'un Tangle. Pour pouvoir dire c'est intéressant.
Voilà, exactement. Et s'il y a une chose que l'histoire des cryptos nous a appris, c'est que c'est un domaine complexe et dans lequel il faut rester humble. De tous ceux qui ont prétendu avoir trouvé une solution plus intelligente que celle de Satoshi, il y en avait beaucoup qui se sont cassés les dents.
Ouais, d'ailleurs, en fait, théoriquement, on comprend pas encore complètement la simple blockchain de base. On en est encore à faire des exemples vraiment de base. Donc, avant d'aller au 2 ou 3.0, essayons juste de finir le 1.0 correctement, quoi.
Justement, ça tombe bien, c'est exactement ça pour moi qui est le projet le plus intéressant. Enfin, quand je dis le projet, c'est la multitude de projets, mais qui vont tous dans le même sens. C'est tout ce qui est recherche autour des solutions de scalabilité pour les bonnes vieilles blockchains, qui sont Bitcoin, Ethereum et toutes les autres.
Tout à fait, tout à fait. Oui, là, et donc ici, je vois que Plumefan a noté Lightning Network ou Sharding Casper. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est des approches qui me plaisent. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve que c'est une des approches qui ont vraiment du sens parce qu'on part d'une infrastructure qui existe, qui fonctionne, et on va graduellement essayer d'optimiser. Donc, plutôt que de faire un truc super optimal et après voir s'il marche, ben, tout codeur qui a bossé sur des programmes, sur des logiciels de taille, sait que la première chose à faire avec du code, c'est qu'il fonctionne, qu'il fasse le résultat correct, qu'il passe les tests. Et toute optimisation viendra après. Parce que d'abord, on regarde que ce soit correct. On fait une batterie de tests pour vérifier que tout changement ne va pas, on va pas faire des régressions. Et puis on va analyser pour voir là où il faut vraiment optimiser et là où en fait intuitivement on croyait qu'il fallait optimiser, mais en fait c'est en fait pas nécessaire parce qu'on passe un millionième du temps là-dedans. Et l'approche de dire on va d'abord faire un truc super optimal et après on va le corriger, eh ben en logiciel je pense que ça n'a jamais fonctionné. Donc il y a pas de raison que ça fonctionne pour la blockchain, je pense.
Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle optimiser quelque chose qui ne fonctionne pas et ça ne sert à rien.
Voilà. Le Lightning Network ou le sharding Casper, par contre, se base vraiment sur des blockchains qui sont éprouvées, qui sont solides, et dit tiens, maintenant on va essayer d'optimiser les choses et sans prendre trop de risques. Et donc je trouve que c'est super intéressant.
Ouais. Alors je vais revenir là-dessus, juste un truc, une petite précision, je vais pas parler ici de je m'intéresse ici à tous les projets de recherche en scalabilité qui font attention à ne pas compromettre ni la sécurité ni la décentralisation. Donc on ne parle pas des blockchains permissionnées, c'est mal. Parce que ça c'est trop facile, puis en fait ça sert à rien. On l'a déjà expliqué, mais du côté de Bitcoin effectivement, déjà on voit un petit peu le capharnaüm, le chaos général causé par la stratégie d'augmenter la taille des blocs de façon assez naïve, telle qu'elle a été adoptée par Bitcoin Cash. On voit bien le flou artistique qui règne autour de ça. Et finalement, on se dit de plus en plus que la solution qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire celle du Lightning Network, fait de plus en plus de sens du côté de Bitcoin. Donc la recherche continue de ce côté-là. J'ai découvert du coup qu'il y avait déjà 4400 nœuds et plus de 13500 payment channels qui existaient déjà sur le Lightning Network, qui est encore en cours de recherche sur Bitcoin.
Et la capacité vient de passer au-dessus des 500 Bitcoin. Donc on peut maintenant, avec le Lightning Network, on peut faire des transactions jusqu'à, en théorie, 500 Bitcoin. Mais évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais ça veut dire que les gens mettent des Bitcoin à disposition dans le Lightning Network. Et donc plus il y en a, ça augmente de plus en plus. Et donc ça veut dire que les gens qui ont des Bitcoin croient en cette technologie. Plus il y en a, plus... C'est quand même, c'est important à le signaler. C'est quelque chose qui fait pas trop de vagues. On n'en parle pas, mais on en parle très peu, mais qui, pour le Bitcoin, pourrait vraiment se révéler, ça pourrait faire un flop total. Mais pour le moment, ça monte graduellement et c'est plutôt rassurant, en fait.
Ouais. Donc je rappelle le principe des Lightning Network, c'est de faire sortir de la blockchain principale un certain nombre de transactions, de les mettre dans des payment channels qui peuvent se faire off-chain, mais qui peuvent être régulièrement, on va dire, notarisées sur la blockchain principale, et donc qui vont faire économiser tout un tas de données qui n'auront pas besoin d'être stockées dans la blockchain principale. En gros, c'est ça l'idée.
Ouais, par exemple, si je dois 10 balles à Seb doit 9 balles à Intel, qui me doit 8 balles, machin, mais Seb me doit après 2 balles pour un truc. On fait ça pendant quelques jours, quelques mois, quelques années, c'est vraiment au choix, à un moment. Et donc, on additionne tout ça, et la seule chose qu'on va mettre dans la blockchain, c'est le résultat de toutes ces transactions. Donc, en fait, on peut voir ça comme une sorte de canal de paiement temporaire, mais qui peut durer vraiment au choix entre quelques secondes et des années. Et on peut, du coup, plus il y a des gens qui sont sur ce network, plus forcément, on peut agréger toutes les données pour simplifier ce qui va aller dans la blockchain. Voilà, ça c'est l'idée de base.
S'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé des outils comme Splitwise ou TriCount pour se faire des comptes entre amis, on se doit des trucs, etc., c'est un peu ça l'idée, en gros.
Voilà, exactement.
Ça c'est au niveau de Bitcoin, la principale stratégie elle est autour du Lightning Network. Côté Ethereum, il y a beaucoup plus de projets en recherche. Il y a à la fois des solutions sur le long terme, qu'on a déjà parlé du Proof of Stake, donc de la preuve d'enjeu, dont le nom de code est Casper. Et puis on a parlé aussi du sharding, c'est-à-dire cette possibilité de fragmenter les données de la blockchain en plusieurs petits morceaux, de façon à ce que chaque nœud n'ait pas besoin de processer l'intégralité de la blockchain. Et le destin de ces deux deux projets de recherche est désormais lié, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fortes dépendances entre les deux, et donc il y a très forte chance qu'il sera publié, enfin que les deux projets seront publiés ensemble. Donc ça, c'est plutôt à long terme. Maintenant, en même temps que le travail continue sur ces solutions-là, on a aussi beaucoup de recherches qui sont liées aussi à des équivalents du Lightning Network de Bitcoin, qui dans le monde Ethereum s'appelle Raiden ou Plasma. Et ça, là aussi, on se rend compte que c'est plus à long terme, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais il y a déjà des équipes qui travaillent activement dessus. Et en plus de ça, il y a des projets de recherche beaucoup plus à court terme. DEFCON 4 a fait apparaître un certain nombre de... a fait ressortir un certain nombre d'initiatives qui pourraient éventuellement être activées dès l'été ou l'automne 2019, sous l'emblème de Ethereum 1X. Et c'est notamment la mise en place d'un loyer pour le stockage de données de smart contracts, qui pourrait aller favoriser en tout cas le nettoyage des données sur la blockchain et donc rendre le stockage un petit peu moins lourd. Et puis aussi une nouvelle version de la machine virtuelle qui serait une implémentation de WASM, donc ce qu'on appelle eWASM, c'est un petit nom très poétique. Donc tout ça pourrait déjà arriver dès 2019. Donc d'une manière générale, on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours. Personnellement, je pense pas que la valorisation de crypto-monnaies augmentera beaucoup en 2019, ou alors vraiment très progressivement. Par contre, on y verra de plus en plus clair dans les bénéfices apportés par les différents projets de recherche qui sont en cours, et de là sortira peut-être une valeur un petit peu plus, on va dire, ancrée dans la réalité de l'innovation de ces différentes crypto-monnaies. Mais c'est sûr que là, cette année, ça va être vraiment 2019, l'année du Beedle, de la concrétisation et de la vraie recherche et de l'innovation.
Mais et malheureusement aussi du fait que les prix se sont cassés la gueule, il y en a plein qui voulaient bidler qui n'ont plus les moyens de le faire. Ça, c'est dommage. Mais en même temps, on a fortement nettoyé tout un secteur où tout le monde prétendait faire tout et n'importe quoi avec des budgets faramineux et bon, il y en a qui se sont cassés au Bahamas, mais voilà.
Je vais revenir là-dessus dans les actualités d'ailleurs. On va rapidement passer sur les news d'Ethereum. Donc on en a fini avec le courrier des auditeurs. Je vous rappelle, n'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions, à nous faire vos remarques si des choses ne sont pas claires sur le blog, sur Facebook ou sur Twitter. Donc on passe aux news d'Ethereum. Première bonne nouvelle, un bloc d'activation a été décidé pour Constantinople. Donc je rappelle, Constantinople, c'est ce hard fork qui devait originellement avoir lieu en octobre et qui finalement avait été remis dans les cartons à cause de bugs qui avaient été notés dans les implémentations et qui en plus était assez mal positionné dans le temps puisqu'il y avait la conférence DEFCON 4 qui avait lieu début novembre. Donc pour éviter les collisions et les développeurs qui sont pas vraiment à leurs affaires, on avait repoussé ça au début de l'année. Et effectivement, ce sera donc le bloc 7 080 000 qui devrait activer Constantinople et qui devrait être miné théoriquement entre le 14 et le 18 janvier. Donc la fourchette est assez large, donc devrait permettre aux gens de se préparer. Pour savoir ce qu'il y aura dedans, je vous renvoie aux épisodes précédents du podcast où on en a parlé. Mais un des effets les plus visible, ce sera le retardement de la bombe de difficulté. Je vous rappelle, c'est ce mécanisme qui devrait à terme forcer les mineurs à switcher vers le proof of stake quand il sera disponible. Comme il est toujours pas prêt, on est obligé de repousser cette bombe de difficulté. Cette fois-ci, elle est repoussée de 18 mois. Et du coup, comme le corollaire de cette modification de la bombe de difficulté, c'est la diminution du mining reward, donc la prime qui est accordée aux mineurs quand ils minent un bloc, qui aujourd'hui est de 3 éthers et qui devrait passer à 2 éthers. Si vous vous souvenez bien, dans les précédentes discussions, on avait aussi parlé de ProcPow, qui est cette modification qui devrait rendre l'algorithme de consensus de Proof of Work de Ethereum résistant aux ASICs, donc ces processeurs dédiés au minage. Et là, on ne sait pas encore si ça sera intégré dedans. Le développement suit son cours, les tests aussi, mais on ne sait pas encore si ce sera prêt début janvier pour intégrer ça dans cette release. Donc ça, c'est encore une décision qui reste à prendre. Toujours est-il que la version 1.8.20 de Go Ethereum, qui est le client Go, donc qui est une des implémentations avec Parity d'Ethereum qui est la plus populaire, cette version 1.8.20 a déjà été réalisée, donc elle contient tous les changements de Constantinople avec le numéro du bloc d'activation, et en plus un petit code qui devrait éventuellement permettre d'activer un mécanisme de secours pour retarder l'activation de Constantinople si on note encore un autre problème important. Et avec cette release, on devrait conclure ce qu'on a appelé la mise à jour Metropolis, qui devait être composée donc de Byzantium, qui avait déjà été releasé à l'automne 2017, et Constantinople, qui devrait donc être releasé début 2019. Et avec ça, on devrait libérer un petit peu les développeurs pour bosser sur Ethereum 1x, dont j'ai déjà parlé, pour a priori pour l'été 2019, et puis aussi sur Ethereum 2.0, dont le nom de code est Serenity, qui devrait normalement arriver courant 2020, peut-être 2021, à voir. Évidemment, là, c'est très incertain, puisque là-dedans, il y a énormément de choses, et de choses très conséquentes en termes de changements pour le réseau. Dans le même temps, ce qui a été assez intéressant en cette période de Noël, c'est qu'il y a eu plusieurs conversations sur Twitter qui ont poussé Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, à distribuer des fonds, tout simplement, et pas des fonds d'une institution ou quoi, mais ses propres fonds propres à lui, son compte Ethereum à lui. Il a carrément allez, distribué, comme ça c'est le Père Noël, hop, il a donné des fonds, et pas des petites primes, puisque il a distribué 1000 Ethers à 3 projets, donc 1000 Ethers pour chacun des 3 projets, suite encore une fois à des simples conversations sur Twitter. Alors ça en a fait sourire certains, puisque suite à un certain nombre d'arnaques qui avaient eu lieu et qui se prétendaient venir de Vitalik Buterin lui-même sur Twitter, il avait changé son nom d'utilisateur sur Twitter en Vitalik Buterin, non-giver of Ether. Et puis là, il se retrouve à lui-même donner de l'Ether un petit peu à tour de bras. Là, pour le coup, on vérifie que c'est bien lui, hein, évidemment. Et alors, les trois dons ont été destinés à 3 organisations qui avaient déjà été, qui avaient déjà fait l'objet évidemment d'une évaluation de leur projet. C'est Sigma Prime et Chainsafe, qui développent toutes les deux des clients Ethereum 2.0, donc qui travaillent déjà sur le long terme. Et un troisième projet, Prismatic Labs, qui travaille aussi sur des solutions de scalabilité. À noter que ces donations s'ajoutent aux primes qui avaient déjà été attribuées à ces différentes organisations par la fondation Ethereum elle-même. On en avait parlé dans les épisodes précédents, puisque Prismatic Labs avait déjà reçu $500,000 en octobre et $100,000 en mars, et Sigma Prime avait déjà reçu $150,000 en octobre. Donc ils ont reçu un petit supplément de Vitalik lui-même, qui hop a pioché dans sa réserve pour aller donner quelques Ethers à ses projets pour qu'ils puissent se financer. Au passage, ça montre que de l'argent, il y en a, pour les projets qui savent montrer évidemment qu'ils sont sérieux. Pour autant, évidemment, Vitalik a insisté sur le fait qu'il attendait de voir des résultats. En tant que porte-parole de toute la communauté, on attend de voir comment ces fonds seront utilisés. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez magnifique avec la crypto, puisque ces dons, ils ont été assez simples à faire, à tracer. Vous pouvez voir les transactions directement sur Etherscan, par exemple. Et en même temps, bah, c'est difficile de les empêcher ou de les ralentir ou de les réduire, même avec des taxes ou d'autres encombrements administratifs. Donc ça s'est fait très rapidement. Et au passage, je vous ai mis un lien vers un superbe article de CoinDesk qui résume 8 projets qui travaillent sur des clients Ethereum 2.0, dont ceux qui ont bénéficié de ces donations de Vitalik. Et je vous invite à lire cet article qui est super intéressant. Donc voilà, ça c'était pour les news d'Ethereum. Ah oui, une petite brève quand même. Opera vient de sortir un browser mobile pour Android qui intègre nativement un wallet Ethereum avec le support des transferts en Ether, mais aussi les applications décentralisées Web3, les tokens ERC20, ERC721, donc les tokens non fongibles. Bref, ça peut être intéressant pour les utilisateurs d'Android qui voudraient aussi utiliser des applications Ethereum. Voilà pour les news lié à cette crypto-monnaie, cette blockchain. Des choses à rajouter, Plum?
Non, je pense que tu as été très complet.
Voilà. Alors, ce qui nous amène à la news suivante, dont tu parlais d'une certaine manière juste avant, puisque on a une vague de licenciements qui a été confirmée chez ConsenSys et aussi chez Status. Alors, on rappelle hein, que dans le dernier épisode, on parlait du fait que Joseph Lubin, donc le fondateur et principal financier de ConsenSys, qui est une grosse boîte de conseil liée, enfin qui gère beaucoup de projets liés à Ethereum, avait annoncé une restructuration et une reconcentration de ses moyens sur des projets à plus haute valeur ajoutée et avec un peu plus de rigueur, on va dire, dans la gestion des fonds. Et on se doutait que ça allait être suivi d'une vague de restructuration, c'est-à-dire de licenciement. Et c'est bien ce qui s'est produit, puisque le 13 décembre dernier, ConsenSys a confirmé le licenciement de 13% de ses équipes, ce qui représente à peu près 150 de ses 1200 employés. Ce licenciement, donc comme je disais, se fait dans le cadre de ce plan qu'ils appellent ConsenSys 2.0. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Ça a déclenché pas mal de réactions et d'inquiétudes dans la communauté. Il faut savoir que la société existe depuis 4 ans et que selon certaines estimations, son burn rate, c'est-à-dire le montant qui brûle par an, serait de l'ordre de 100 millions de dollars. C'est quand même pas négligeable. Tout ça, évidemment, est pour l'instant financé essentiellement avec les fonds propres de notre ami Joseph Lubin, qui bénéficie de son statut de cofondateur d'Ethereum et donc de mineur très précoce qui avait accumulé beaucoup d'Ether dès le début. Alors, petite joyeuseté aussi, c'est que Coindesk, donc le site de news assez réputé dans la communauté, a obtenu l'accès à un chat interne qui avait été organisé entre les employés et le management de ConsenSys pour discuter justement de cette restructuration. Évidemment, le management de ConsenSys n'a pas tellement apprécié la tactique de Coindesk, mais on y voit que certains employés expriment leur incompréhension et leur inquiétude, mais pour autant, d'autres soutiennent vraiment le changement et regrette même qu'il n'ait pas eu plus tôt. C'est vrai que il y avait déjà beaucoup de rumeurs et d'informations qui circulaient par rapport au fait que ConsenSys avait tendance un petit peu à jeter l'argent par les fenêtres et à embaucher de manière déraisonnée. Et là, de toute évidence, il rationalise énormément les choses. D'autres sources confirment que, a priori, il y aura d'autres licenciements à prévoir, simplement qui seront décidés de manière un peu moins centralisée, puisque là c'est le top management en gros qui a coupé les plus grosses branches. Et puis d'un autre côté, le management en interne est assez décentralisé, dans le sens où vous avez plusieurs projets qu'ils appellent en interne des spokes, des rayons dans une roue, et qui ont leur propre niveau de décision pour voir est-ce qu'ils doivent réduire leurs équipes, et si oui, qui doit faire l'objet d'un licenciement. Donc il y a fort à parier qu'il y aura d'autres licenciements qui seront décidés ultérieurement et que ça va encore provoquer des réactions évidemment et de l'inquiétude. Dans le même temps, il y a un autre acteur majeur de l'écosystème Ethereum qui s'appelle Status, qui développe des dApp browsers, donc des outils qui permettent de consulter des applications décentralisées à la fois sur mobile et maintenant sur desktop. Ils ont annoncé le licenciement de 25% de leurs équipes, et comme ils sont une centaine pour l'instant, ça fait à peu près 25 personnes. Donc les employés restants, en plus de ça, vont devoir accepter une diminution de leur salaire qui sera partiellement compensée normalement en token Status, puisque Status avait levé fait sa propre levée de fonds, sa propre ICO, et avait pour ça produit miné le token Status Network Token, le SNT, et donc certains employés bénéficiaient déjà de SNT et auront une petite augmentation à SNT pour essayer de compenser un petit peu leur perte de salaire, évidemment tout ça étant sujet au fait que le token Status va augmenter de valeur à l'avenir. Et aujourd'hui, du coup, avec tout ça, Status disposerait a priori de 6 mois de runway, donc de marge de manœuvre opérationnelle, on va dire, en monnaie fiat, donc en bon vieux dollar. Et en plus de ça, ils ont un stock de 190 000 Ether, toujours derrière, mais qui gardent pour l'instant pour pas les liquider maintenant, alors que la valeur de l'Ether notamment est assez basse. D'une façon générale, on va dire que ces licenciements et ces restructurations, ça montre l'impact effectivement de la chute des prix des crypto-monnaies en dollars sur la stratégie des sociétés, qu'elles n'avaient pas forcément anticipé pour la plupart. Certaines avaient gardé beaucoup de leurs fonds en crypto, à la fois en pariant sur la hausse et puis aussi par contrainte, parce que pour liquider des montants aussi importants de crypto-monnaies, c'est pas forcément facile. Il faut des partenaires bancaires qui acceptent ça, etc. Donc c'est pas gagné d'avance. Mais voilà, là aujourd'hui, ça a un impact direct sur leur stratégie. Moi, ce que je trouve assez sain, c'est que il y a quand même un peu d'anticipation. Ces sociétés-là auraient très bien pu aussi tout brûler jusqu'à la faillite, comme ça s'est vu justement beaucoup dans le cadre de la bulle .com. Ici, on a des sociétés assez grosses qui prennent leurs mesures de manière préventive pour éviter justement de se retrouver complètement à sec. Bon, je trouve ça assez sain dans l'ensemble. Pas de remarque, de commentaire par rapport à ça, Plume ?
Pas du tout.
Voilà.
Je pense que tu as tout dit.
Voilà. Et donc, on en arrive au dernier sujet de ce podcast, qui, je l'espère, va vous donner de l'inspiration. Alors, peut-être pas forcément pour les cadeaux de Noël de cette année. Ce sera peut-être plus pour l'année... Pardon. Pour les cadeaux de l'année prochaine, je vais vous parler du wallet Pixby. Alors, qu'est-ce que c'est le wallet Pixby ? C'est un wallet destiné aux enfants, un wallet de crypto-monnaie destiné aux enfants. Donc, faut voir que les enfants ont déjà, d'une certaine manière, des notions d'argent à travers les jeux vidéo dans lesquels ils peuvent acquérir de la monnaie virtuelle pour personnaliser leur personnage, etc., etc. Mais tout ça, ça reste très virtuel et pas très réel, et surtout, ça ne sont pas des crypto-monnaies, et donc ça les éduque pas particulièrement par rapport à ces crypto-monnaies. Or, encore une fois, si vous avez écouté un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans le Proof of Cast, vous vous rendez bien compte que les crypto-monnaies, c'est un petit peu plus sérieux que ça, et surtout, ça ouvre des perspectives super importantes pour l'avenir de ces enfants. Et personnellement, voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que l'avènement d'une vraie société décentralisée, ça pourra se faire que en éduquant, en changeant déjà notre système d'éducation, ça c'est une chose, mais aussi en éduquant nos enfants de la manière la plus précoce possible à tous les outils mathématiques et cryptographiques qui visent à nous rendre notre liberté et notre souveraineté individuelle, puisque c'est exactement de ça dont il s'agit. Et ici, c'est vraiment dans cet esprit-là que les créateurs de Primo Toys, qui nous avaient déjà amené le Cubetto. Alors, pour rappel, le Cubetto, c'est un jouet qui permet, un jouet en bois en plus, qui permet d'apprendre les bases de la programmation à des enfants à partir de 3 ans. Donc, c'est vraiment destiné aux tout petits. J'en avais offert un à mon neveu, à mon filleul, à Noël dernier. Il faudra que je suive où il en est dans son développement de la prochaine blockchain.
Moi, j'en ai un à la maison, un Cubetto, justement. Et donc, je me réjouis de voir le Pixby.
Voilà. Et donc, il lance du coup une nouvelle campagne sur Kickstarter, une campagne de financement participatif pour ce jouet éducatif qui s'appelle Pixby et qui n'est ni plus ni moins qu'un wallet hardware tactile qui va permettre aux enfants de visualiser, de toucher et de jouer avec de la crypto-monnaie. Alors, soit sur des réseaux de test, il sera possible aussi de faire ça en monnaie de singe, soit avec de la vraie crypto-monnaie qui sera utilisable ensuite sur le réseau principal. Donc, en gros, pour simplifier, le but, c'est de faire une espèce de tirelire cochon en crypto-monnaie. Alors, qui va utiliser des tokens, évidemment, pour tout ça. Ici, ils vont utiliser, la connexion avec le monde réel, avec les crypto-monnaies réelles, ça va être le token Wolo, qui a déjà fait l'objet d'une levée de fonds, d'une ICO, plus tôt cette année. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que les parents conserveront le contrôle de avec qui et dans quel contexte les enfants pourront échanger de la crypto-monnaie sur leur wallet Pixby, puisqu'ils pourront explicitement désigner des émetteurs, des destinataires autorisés. Donc en gros, l'objectif, c'est de permettre de gérer de l'argent de poche à l'intérieur de la famille ou avec des amis pré-identifiés. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et l'article, la description du projet sur Kickstarter. C'est vraiment intéressant et encore une fois, ils ont fait ça en se concentrant sur l'aspect utilisation, les propriétés d'usage pour les enfants, Au passage aussi, je pense que ça aura un intérêt non négligeable d'éducation pour les parents, mais ils rentrent pas dans le détail mathématique de comment ça marche à l'intérieur. Ils expliquent juste comment on peut utiliser des crypto-monnaies de manière décentralisée. La campagne sur Kickstarter a déjà levé plus de 80 000 euros sur les 43 000 euros et des qui étaient visés au départ. Et la campagne a lieu jusqu'au 25 janvier, donc vous avez un petit peu de temps pour aller regarder ça et sûrement participer aussi au financement.
Ouais, mais alors il faut toujours faire une petite alerte quand même pour tout ce qui concerne les wallets. C'est que les wallets, c'est quelque chose de très très complexe, qu'il y a plein de wallets qui ont été lancés sur le marché qui se sont avérés en fait pas sécures, qui pouvaient être hackés, voire pire, que dans certains cas en fait le fabricant connaissait les clés secrètes, ou simplement un intermédiaire pouvait avoir ouvert le paquet, pris la clé secrète, et donc votre wallet en fait était en fait le wallet de l'intermédiaire. Donc chaque fois que vous envoyez des sous dessus, donc tout ce qui est wallet, ça reste quelque chose de compliqué. En plus, il y a les wallets qu'on branche sur son ordinateur, mais donc il faut garantir qu'ils ne puissent pas être affectés par un virus potentiel sur votre ordinateur. C'est quelque chose de très complexe. Donc ici, c'est super chouette comme outil éducatif, mais si vous avez 1000 bitcoins que vous voulez garder en attendant la prochaine bulle, un conseil, ne les foutez pas là-dessus.
Évidemment, là, c'est pas du tout le cas d'utilisation. S'il y a des wallets hardware beaucoup plus sécurisés et conçus pour ça, on a déjà parlé du Ledger, on a déjà parlé du Trezor, etc., qui sont faites beaucoup plus pour cette utilisation-là.
Mais si vous avez 1000 bitcoins aussi, le Proof of Cast cherche du financement. Vous vous souvenez les histoires pour le jet privé, là, tout ça. Ah, voilà.
Tout à fait. Effectivement, ça reste une possibilité si vous voulez investir dans un podcast plein d'avenir avec une équipe jeune et dynamique. Donc, voilà qui conclut les actualités et donc cet épisode 17 du Proof of Cast. Plume, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement où on peut te retrouver ?
Eh bien, on peut me retrouver sur plume.net, forcément, mon blog, c'est le centre de tout, donc c'est le plus facile. Et si vous voulez me contacter, c'est par mail, parce que, je le rappelle, je suis déconnecté des réseaux sociaux, je ne vais plus les voir. Il y a juste que ce que je poste sur mon blog est automatiquement forwardé sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. Et si jamais vous êtes vous cherchez à faire une formation aux nouveaux médias, aux technologies, aux nouveaux médias, eh bien, je participe à l'organisation d'un programme qui s'appelle pilote.media. Pilote.media, c'est simplement l'URL, qui se tiendra ici pendant 3 mois en francophonie. C'est un programme qui se veut francophone avec des experts, des coachs et tout ça. Et vous avez jusqu'au 6 janvier pour déposer votre candidature, pour être un des 25 étudiants sélectionnés pour passer 3 mois, être accompagné pour développer votre projet personnel dans tout ce qui est nouveaux médias et nouvelles manières d'interagir avec les médias.
Très intéressant, merci Plume. Et donc de mon côté, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter, sur Facebook, etc. Proofofcast.com pour le blog. Et bien sûr, si vous êtes développeur et que vous voulez apprendre à développer des smart contracts sur Ethereum et des applications décentralisées, on a toujours notre cours sur Udemy avec un coupon Proofofcast qui vous offre le cours pour la modique somme de 10 euros. Donc ça reste toujours utilisable. Le prochain épisode du Proof of Cast, ce sera dans 2 semaines, donc pas de pause particulière pour les fêtes de fin d'année, puisque la pause sera naturellement faite dans les 2 semaines qui viennent, et le prochain épisode sera donc diffusé le 5 janvier, donc on se retrouve le 5 janvier pour un prochain épisode. Merci à toi Plume.
Merci à toi Seb, et ben alors du coup, bonne année et joyeux Newton-mas, parce que je rappelle que Newton est né un 25 décembre de l'ancien calendrier, mais c'est pas grave. Et donc, dans les personnes qui ont impacté le monde, moi je préfère citer Newton que Jésus, mais c'est un choix très personnel. Donc joyeux Newton-mas à tous.
Joyeux Newton-mas, bonne année effectivement 2019, et on se retrouve du coup à la rentrée. Merci, à bientôt, au revoir.